France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. En Allemagne, le chancelier Scholz dénonce une alliance impardonnable entre les conservateurs et l'extrême droite. L'AfD vient de soutenir une proposition de loi de la CDU pour durcir les règles d'asile. Le chaos menace la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, pourraient poursuivre leur offensive vers Kinshasa. Des milliers de Congolais cherchent de l'aide humanitaire. En France, Elisabeth Borne défend le programme d'éducation à la sexualité devant les syndicats et les représentants des parents d'élèves. Les parents qui n'auront pas forcément le calendrier des séances prévues pour leurs enfants. Nous ferons le point avec Hakim Kasmi. Le Conseil d'État a tranché. Les appellations steak ou saucisse ne sont pas réservées à la viande. Elles peuvent aussi concerner les produits à base de protéines végétales. Nous verrons cela avec Catherine Pétillon. Le Parlement allemand vient donc d'adopter une proposition de loi de la CDU visant à durcir les règles d'asile dans le pays. Une proposition qui intervient quelques jours après une nouvelle attaque au couteau perpétrée par un demandeur d'asile. 2 morts, dont un enfant, à Aschaffenburg en Bavière. Le meurtrier est afghan, il a été arrêté. À moins d'un mois des législatives en Allemagne, la CDU de Friedrich Merz est en tête dans les sondages. Elle exclut de gouverner avec l'AfD, le parti d'extrême droite. Mais aujourd'hui, les conservateurs avaient besoin de cette AfD pour faire passer leur proposition de loi. Nous sommes avec notre correspondant à Berlin, Sébastien Bayer. Bonsoir.
Bonsoir.
Sébastien, le chancelier social-démocrate Olaf Scholz dénonce une alliance impardonnable entre la CDU et l'AfD, car le Bundestag a voté le texte.
Oui Stanislas, il s'agissait de 2 motions dont une destinée à bloquer à la frontière toute personne qui se présenterait sans papier d'entrée légal, y compris les demandeurs d'asile. À 3 semaines des élections législatives, la sécurité, l'immigration figurent, vous l'avez rappelé, parmi les principaux thèmes de la campagne après plusieurs attaques commises ces derniers mois par des réfugiés et des demandeurs d'asile. C'est précisément cet argument sécuritaire que Friedrich Merz, le chef des conservateurs, favori pour devenir le prochain chancelier, a mis en avant tout à l'heure.
L'Allemagne a un problème massif de criminalité étrangère, en particulier parmi les demandeurs d'asile. Que doit-il encore se passer en Allemagne? Combien de personnes doivent encore être assassinées? Toutes les tentatives pour trouver des solutions communes avec votre coalition ont échoué ces 3 dernières années.
Les appels à ne pas voter avec les nazis, ce sont là les mots de la chef du groupe des Verts au Bundestag, n'auront donc pas suffi à empêcher l'adoption de ce texte anti-immigration, pas plus que la mise en garde du chancelier Olaf Scholz juste avant le vote des députés.
Il n'est pas indifférent de collaborer avec l'extrême droite, pas en Allemagne. Vous acceptez ouvertement le soutien de l'AfD à vos propositions illégales. Le soutien de ceux qui combattent notre démocratie, qui méprisent notre Europe unie, qui empoisonnent de plus en plus le climat dans notre pays depuis des années, c'est une grave erreur, c'est une erreur impardonnable.
Les conservateurs de la CDU font la course en tête dans les sondages avant les élections du 23 février, juste devant l'AfD, le parti d'extrême droite, crédité lui de 20% des intentions de vote.
Merci Sébastien Baer, en direct de Berlin. La Commission européenne a dévoilé aujourd'hui sa boussole de compétitivité, un outil pour réarmer économiquement l'Union européenne face à la concurrence américaine et chinoise. Un réarmement d'autant plus urgent que Donald Trump n'exclut pas une guerre commerciale contre les Européens. Cette boussole de compétitivité prévoit notamment un choc de simplification et une baisse du coût de l'énergie, mais elle ne fait pas l'unanimité à Bruxelles, Fabien Cazot.
La Commission européenne se s'est attendue au tournant. Sous couvert de simplification administrative, s'apprêterait-elle à assouplir les contraintes environnementales qui pèsent sur les entreprises? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, nie catégoriquement tout entorse au Green Deal. Elle défend même la simplification administrative comme un moyen de l'accélérer.
Je veux être très clair. L'Union européenne garde le cap sur les objectifs du Green Deal, sans aucune ambiguïté. Regardez comme nos procédures sont complexes, parfois contradictoires. La simplification contribuera aussi à la réussite du Green Deal, car nous devons accélérer. Plus on fera compliqué, plus on sera lent. Et évidemment, plus on fera simple et pragmatique, plus on pourra être rapide.
Pas de quoi rassurer les écologistes européens comme l'eurodéputé David Cormann.
Quand vous avez des gens qui vous disent simplification, il faut comprendre libéralisation. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est pas de faire de la compétitivité pour faire de la compétitivité.
La gauche européenne et les ONG s'inquiètent notamment pour la directive obligeant les multinationales à un devoir de vigilance envers leurs sous-traitants ou encore celle qui leur impose de déclarer l'impact social et environnemental de leur activité, directive que la France et l'Allemagne notamment demandent d'assouplir.
Fabien Cazot, notre correspondant à Bruxelles. Jusqu'où iront les rebelles du M23 en République démocratique du Congo? Le groupe armé contrôle ce soir la quasi-totalité de Goma, la grande ville de l'est de la RDC, et il envisagerait désormais de poursuivre son offensive vers l'ouest, voire jusqu'à la capitale, Kinshasa. C'est ce qu'affirme un haut responsable rwandais, l'ambassadeur Vincent Karega. Le Rwanda qui soutient militairement les rebelles du M23 malgré les mises en garde de la communauté internationale. Les combats à Goma ont déjà fait plus d'une centaine de morts et des habitants passent côté rwandais pour se ravitailler. Le reportage Rwanda de Lucie Mouillot.
À la frontière de la Grande Barrière, plusieurs centaines d'habitants de Goma traversent depuis le début de la matinée. Pour Bali Kasereka, c'est la première fois qu'il sort de chez lui depuis dimanche et le début des combats dans la ville.
C'est déplorable parce que tout a été détruit, les boutiques, les commerces, tout a été complètement pillé. Alors il n'y a que des débris qui sont par-ci par-là dans la ville. Il n'y a pas de l'eau à Goma. Donc les gens ils sont en train de quitter leur maison pour aller se ravitailler, chercher de l'eau au lac.
Les Nations Unies alarment sur une situation humanitaire très inquiétante à Goma où la distribution d'aide alimentaire est suspendue. Beaucoup traversent la frontière pour aller se ravitailler au Rwanda.
Tout est fermé, tout a été détruit. Les stades d'insécurité, là, c'est déjà révolu. Le pire est passé. Mais ce qui reste, on a besoin de l'eau, de l'électricité et qu'ils ramènent aussi l'Internet.
Avec un petit sac à dos comme seule affaire, Antoinette Kavira a décidé de quitter Goma pour mettre son fils de 5 ans à l'abri après de nombreux jours de tension. Pour elle, les habitants de la ville ont été abandonnés à leur sort.
Il n'y a pas d'espoir, la ville est envahie, vous voulez quel espoir? Je suis vraiment fâchée contre la communauté internationale parce qu'aucun renfort, les gens sont en train de souffrir, mais la communauté, quel est son rôle? Les Gomatraciens sont abandonnés, les gens sont de ci.
Les déclarations de nombreux pays et de l'ONU pour dénoncer l'offensive du M23 et le soutien du Rwanda aux rebelles se sont multipliées ces derniers jours. L'Allemagne est le premier pays à avoir annoncé suspendre son aide au développement à Kigali.
Lucie Mouillot au Rwanda. Le président congolais Félix Tshisekedi devrait prendre la parole d'ici ce soir, son premier discours depuis le début de la crise. Il a refusé aujourd'hui d'assister à une réunion au Kenya avec son homologue rwandais Paul Kagame. Le programme s'appelle EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et il est présenté en ce moment aux représentants du Conseil supérieur de l'éducation. La ministre Elisabeth Borne entend inscrire ce programme à la prochaine rentrée scolaire de septembre, avec 3 séances annuelles au moins. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Elisabeth Borne l'a indiqué tout à l'heure, elle ne souhaite pas que les parents aient le calendrier de ces séances auxquelles leurs enfants devront assister.
Oui, Stanislas, même si les discussions sont toujours en cours et que de nombreux amendements n'ont pas encore été votés, il y en a 150, faut-il le rappeler. La soirée sera donc très longue au ministère ce soir. Sur la partie du programme qui prévoit que les parents d'élèves seraient informés de la tenue et du contenu des séances qui seraient obligatoires, ce que dénoncent les syndicats, Elisabeth Borne a indiqué en préambule qu'elle était ouverte à la discussion avec les partenaires sociaux en expliquant qu'il y avait peut-être eu une erreur de formulation des propos que salue Elisabeth Anna Moreno, la secrétaire générale du SEUNSA.
Sur justement ce point qui était la demande d'annonce en début d'année, ce qui nous posait problème, parce que pourquoi stigmatiser ce programme par rapport aux autres où on n'annonce pas les dates sur lesquelles on traite tel ou tel sujet? La ministre a dit qu'il y avait sans doute une formule qui était à revoir, parce qu'elle n'avait pas été lue comme elle aurait dû être lue, parce qu'il s'agissait tout simplement d'annoncer en début d'année, comme on le fait pour les mathématiques, le français, l'anglais, d'annoncer qu'il y aurait un programme justement et des séances sur le programme EVARS. Donc s'il n'y a pas de distinction à faire, alors il faut effectivement reformuler cette phrase, parce que sur un tel programme, on ne peut pas laisser place au doute.
Sur ce point bien précis du texte, la FCPE a également apporté son soutien aux enseignants en expliquant qu'en ouvrant en fait la porte, hein, cela pourrait créer des brèches, notamment pour d'autres matières très sensibles, parfois notamment dans certains quartiers, comme par exemple les EMC, les enseignements moraux et civiques, ou encore la SVT ou l'EPS. Enfin, rappelons Stanislas que le vote de ce soir est consultatif et que la ministre aura donc le dernier mot à la fin. Quoi qu'il arrive.
Merci Hakim Kasmi. Elisabeth Borne qui a aussi adressé un courrier au recteur pour faire une mise au point sur un tout autre sujet. Les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'intervenir dans le cadre cadre scolaire pour une procédure d'éloignement. La ministre de l'Éducation qui réagissait à l'interpellation la semaine dernière en Moselle d'une élève burkinabé dans son collège de Mézières-lès-Metz. L'adolescente, son frère et sa mère ont ensuite été expulsés vers la Belgique, affirme le syndicat SNES-FSU, qui dénonce le caractère illégal de cette interpellation. Une affaire scandaleuse pour la FCPE. Faïza Fares est présidente de l'organisation des parents d'élèves en Moselle.
L'école, c'est l'école de la République, du droit et des devoirs. Et que l'on vienne et qu'on enlève une gamine qui est là à l'école depuis un certain temps, la moitié des élèves ne connaissaient pas sa situation. Bah, ça pose vraiment problème, ça choque les familles, alors qu'on dit que l'école, c'est l'école de la République. Tout enfant a le droit à la scolarisation. On entend beaucoup d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, des décisions administratives, mais que ça se fasse pas pendant les temps scolaires. C'est pas le moment de... Voilà, les gamins sont à l'école, c'est des jeunes enfants qui sont en train de se construire. Ah ben là, on les détruit. On détruit des enfants et on montre un mauvais exemple aux autres enfants. C'est une enfant de troisième, c'est pas une enfant... Voilà, c'est une enfant de troisième qu'on a enlevée dans les établissements. C'est ça qui nous a un peu choqués.
Faïza Fares de la FCPE Moselle, elle répondait à Hakim Kasmi, la FCPE qui, avec d'autres associations, organisera demain une manifestation de soutien à la collégienne devant la préfecture de Metz. L'actualité politique reste dominée ce soir par le bras de fer entre le Premier ministre et les socialistes. À la veille d'une réunion décisive sur le budget où la censure du gouvernement est en jeu, le PS continue de demander à François Bayrou de retirer ses propos sur le sentiment de submersion migratoire. Ce qu'il n'a pour le moment en tout cas pas l'intention de faire. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Le gouvernement et ses soutiens veulent tout de même croire à une issue positive et à la non-censure d'une majorité du groupe socialiste pour permettre, Rosalie, à la France de se doter d'un budget.
Mais non, tout n'est pas bloqué, souffle un élu macroniste. C'est un prétexte, ça va se calmer, ajoute un modem, et beaucoup s'en remettent au maître mot du moment, maintes fois répété par la porte-parole du gouvernement tout à l'heure.
Je veux croire que chacun aura le sens des responsabilités.
Nos responsabilités.
Et donc, en responsabilité, toutes ses responsabilités.
Chacun dans ses responsabilités.
Quand j'appelle à la responsabilité, j'appelle tout le monde à la responsabilité.
Sophie Prima veut croire en la capacité de chacun, et notamment des socialistes, à dépasser la polémique du moment pour ne pas mettre en péril le budget et la commission mixte paritaire chargée de trouver un accord dessus demain.
Les négociations sont en cours. Les membres de la commission mixte paritaire sont en train de discuter. Et nous souhaitons qu'il n'y ait aucune prise d'otage de quelque nature que ce soit sur le budget et l'adoption du budget pour la France. Et donc, en responsabilité, tout le monde continue de négocier.
Pression des collectivités, des entreprises, des Français, les socialistes finiront par se coucher, assure un porte-parole du Bloc central. Et s'ils sont plusieurs dans ce camp à regretter l'expression du Premier ministre, ils semblent tous ou presque persuadés, comme Sophie Prima, que le PS ne s'en sert que pour faire monter les enchères.
Une commission mixte paritaire, tant que le gong n'a pas sonné de fin, vous êtes dans la négociation. Avant, pendant, donc aujourd'hui, il y a des demandes. Chaque parti et groupe politique pousse ses feux, fait des demandes. Les médiatise ou ne les médiatise pas, mais on est dans la négociation.
Mais faut-il lâcher encore plus aux socialistes ? On a déjà beaucoup donné, souligne un centriste. Il y a quand même un déficit à combler, rappelle un autre, quand un élu de cette CMP se demande quel sera le prix du mot submersion. Convaincu malgré tout, comme le ministre de l'économie, que le coût d'une censure reste plus élevé que celui des concessions.
Rosalie Lafarge, merci. À propos de ce budget 2025, le ministre de la fonction publique, Laurent Marcangeli, a confirmé ce matin sur RTL plusieurs mesures d'économie. Le gouvernement veut geler le point d'indice des fonctionnaires car nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de l'augmenter, a expliqué le ministre. Par ailleurs, l'indemnisation des agents publics en arrêt maladie devrait baisser pour passer de 100% à 90%. Il s'agit là d'un amendement voté au Sénat et défendu par Laurent Marcangeli. Steak et saucisse ne sont pas des appellations réservées à la viande. Le Conseil d'État a tranché la question hier. La plus haute juridiction administrative a annulé deux décrets pris en 2022 et 2024 à la demande de la filière animale. Deux textes qui interdisaient aux fabricants de produits de protéines végétales d'utiliser ces termes. Conséquence, Catherine Pétillon, le steak végétal ou la saucisse végane resteront comme tels en rayon.
Les fabricants d'alternatives végétales à la viande sont autorisés à toujours parler de steak, de saucisses et autres termes de boucherie. Et c'est la fin d'un long combat judiciaire entre acteurs économiques. D'un côté, tous les nouveaux fabricants de produits végétariens ou végétaliens. De l'autre, les acteurs de la filière animale soutenus par la FNSEA. Ces derniers avaient obtenu des précédents gouvernements deux décrets consécutifs interdisant les termes associés à la viande pour désigner les produits à base végétale. Des textes à chaque fois retoqués par le Conseil d'État en raison de l'atteinte aux intérêts des industriels vendant ces aliments végétaux. Le sujet était remonté jusqu'à la Cour de justice européenne et c'est après ces réponses que le Conseil d'État a tranché, à la grande satisfaction des fabricants d'alternatives végétales comme l'entreprise Lavie, Nicolas Schweitzer et son cofondateur.
Nous en fait, on fait des alternatives végétales à la viande qui cherchent à reproduire exactement toute la gourmandise, tout le plaisir des produits carnés. Nous, on va chercher à utiliser les expressions les plus intuitives, les plus simples pour dénommer nos produits. Donc typiquement, notre jambon végétal, il va avoir le même taux de sel, il va apporter la même acidité, etc. Et du coup, on va pouvoir l'utiliser pour reproduire des recettes historiques type endive au jambon. Donc les consommateurs les appellent tout naturellement par des dénominations type jambon végétal, qui sont les plus claires, les plus évidentes.
Si la bataille sémantique est devenue juridique, c'est parce que ce qui est en jeu, ce sont à la fois des marchés économiques disputés et les comportements des consommateurs. Or, la dénomination des produits a aussi une influence sur la manière dont ils sont adoptés ou non.
Catherine Pétillon. Pour la première fois, Santé publique France publie une enquête sur le coût annuel de la pollution de l'air, près de 16 milliards d'euros chaque année. On savait déjà que 40 000 décès étaient imputables chaque année à cette pollution de l'air. L'étude de l'organisme public veut montrer que plusieurs dizaines de milliers de vies pourraient être sauvées, mais à une condition, abaisser le seuil recommandé d'exposition aux particules fines et au dioxyde d'azote, comme le demande l'Organisation mondiale de la santé. Les explications d'Anne Lordanier.
La pollution de l'air provoque des milliers de cas de maladies respiratoires chaque année. Cancer du poumon, asthme, bronchite chronique. Et c'est moins connu, elle entraîne aussi un nombre impressionnant d'AVC, d'infarctus et de diabète. Parce que les particules fines s'immiscent dans tous les organes du corps. Sylvia Medina est épidémiologiste à Santé publique France.
C'est des particules qui pénètrent très profondément dans les voies respiratoires, qui peuvent traverser les parois alvéolaires et qui vont dans la circulation sanguine. Et c'est pour cela que ça peut sembler surprenant, mais au-delà de l'appareil respiratoire, ces particules fines peuvent aller dans les différents organes de notre corps, donc que ce soit au niveau cardiovasculaire ou au niveau neurologique, où elles peuvent affecter des maladies métaboliques comme le diabète.
D'après l'agence sanitaire, on pourrait éviter 3/4 de ces nouveaux cas de maladie en diminuant la pollution de l'air au niveau recommandé par l'OMS. Ça représente 40 000 cas d'asthme en moins chez les enfants ou 7 500 cas de diabète de type 2 en moins. Ça permettrait aussi d'économiser plus de 10 milliards d'euros.
La situation reste difficile ce soir sur le front des inondations dans l'ouest de la France. Environ un millier de personnes ont été évacuées en Ille-et-Vilaine, l'un des départements les plus touchés. À Redon, l'eau de la Vilaine continue à monter et la rivière pourrait atteindre un niveau historique dans les prochaines heures. Depuis plusieurs semaines, les tempêtes se succèdent en Bretagne, Éowyn, Herminia et maintenant la dépression Ivo. Cette accumulation de pluie est inédite, comme nous l'explique Sébastien Decaux du Bureau d'études Météo Bretagne.
Si je prends l'exemple de la station de Rennes-Saint-Jacques, il est tombé pour le moment 188 mm depuis le 1er janvier. C'est énorme quand on sait que la norme mensuelle, c'est 67 mm, donc quasiment trois fois plus de pluie qu'en temps normal. Alors, on a déjà battu un record mensuel pour un mois de janvier et on s'apprête à dépasser un record absolu de précipitations, ça veut dire tout mois confondu. Il datait d'octobre 1966 avec 194 mm et on s'apprête à le dépasser entre ce mercredi soir et jeudi matin. Il faut savoir que l'année 2024 a été, on va dire, modérément arrosée sur l'Ille-et-Vilaine, mais on n'a pas eu beaucoup de soleil. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait beaucoup de nuages bas. On a aussi battu des records avec de nombreux mois sombres, très humides, des brumes, des brouillards. Donc les sols ne se sont pas du tout asséchés. Mais on avait déjà observé au 10 janvier quelques petites inondations qui étaient un signal finalement que les sols étaient saturés, gorgés d'eau. Et puis à partir du 22 janvier, les perturbations vraiment se sont enchaînées les unes après les autres. Il y a eu la dépression Éowyn, puis Herminia, et puis ce mercredi, Ivo, qui nous ont apporté donc des salves pluvieuses particulièrement marquées. Les sols étaient gorgés d'eau et on réagit fortement en allant se déverser dans tous nos cours d'eau, qui convergent tous vers la Vilaine, donc vers ce bassin versant très dense, qui donc là, pour la Vilaine, suit son cours en direction de Redon après avoir traversé la capitale bretonne. Et en arrivant à Redon, bien on a un effet d'accumulation avec tous ces affluents qui se déversent dans cette Vilaine, qui gonflent de plus en plus en arrivant donc sur le sud du département.
Comment vous voyez la situation? Vous dites décrue à partir de vendredi.
La décrue, celle que tout le monde attend, elle va vraiment intervenir ce week-end.
Le météorologue Sébastien Decaux répondait à Véronique Robérotte. L'Ille-et-Vilaine, qui fait partie des trois départements placés en vigilance rouge pour les crues, avec la Loire-Atlantique et le Morbihan. Six autres départements de l'Ouest et du Nord sont en vigilance orange. Calvados, Maine-et-Loire, Mayenne, Orne, Sarthe et Somme. Demain, le ciel restera pluvieux sur la plupart des régions, avec de la neige en montagne. Les températures minimales iront de 2 à 10 degrés. L'après-midi, il fera entre 8 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, Marie-Claire Oumabadi.